Good Morning Business, le monde qui bouge.
Analyse Capellini, ce week-end, la Russie a lancé une nouvelle vague de frappes sur l'Ukraine, visant en particulier à Kiev. Pourquoi la Russie intensifie la guerre alors que franchement elle s'enlise?
Parce que la Russie en réalité se trouve dans une impasse. Donc c'est quelque part un aveu de faiblesse. C'est en tout cas l'avis de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Pour elle, puisque la Russie a atteint une impasse sur le champ de bataille, elle terrorise l'Ukraine avec des frappes délibérées sur les centres-villes. Et c'est vrai que si la Russie essaye désespérément de reprendre la main sur les combats, c'est parce qu'elle traverse la pire période depuis le début du conflit. Déjà, c'est la première fois depuis le mois d'août 2024 que la Russie perd plus de territoire qu'elle n'en gagne. Et puis, les troupes de Moscou ont de plus en plus de mal à se défendre des drones de Kiev qui, de leur côté, deviennent de plus en plus pointus et donc qui empêchent la Russie d'avancer. Jusque-là, Moscou avançait de à peu près 70 mètres par jour. C'est ce qui s'est passé en 2024 et 2025. Certes, c'était pas beaucoup, mais en même temps, ça avançait. Eh bien, désormais, la ligne de front est tellement saturé avec tous les drones ukrainiens que même cette petite avancée devient impossible. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio disait que les Ukrainiens ont désormais l'armée la plus puissante d'Europe. Alors ça, c'est une évaluation qui lui appartient, mais c'est vrai que cette avancée technologique, elle a été très importante pour les Ukrainiens et qu'elle leur a permis de reprendre la main même sur le bilan humain. Selon le président finlandais Alexander Stubb, il y a désormais un soldat ukrainien mort au combat contre 5 soldats russes. C'est ce qui explique que la Russie, qui est encore plus acculée qu'auparavant, réponde avec autant d'entrain.
Alors, ce week-end, la Russie a utilisé un missile particulièrement symbolique et violent, Oreshnik. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un missile effectivement extrêmement puissant qui se déplace 10 fois la vitesse du son. C'est très difficile à intercepter. Il est capable de transporter des ogives conventionnelles et des ogives nucléaires en même temps. Alors, selon le Kremlin, c'est une riposte aux attaques ukrainiennes qui ont visé l'est de l'Ukraine, donc la région de Luhansk qui est occupée par les Russes. Les Russes disent que les frappes de Kiev ont visé une résidence étudiante et qui ont fait 22 morts. Kiev nie avoir frappé des cibles civiles. C'est seulement la 3e fois que la Russie utilise ce missile Oreshnik dans le conflit. Donc vous voyez là encore, ça témoigne d'un moment de bascule, un moment où Moscou essaye en fait d'utiliser les armes les plus puissantes de son arsenal pour essayer de renverser la table.
Pour Vladimir Poutine, c'est aussi compliqué sur le front intérieur.
Oui, on a l'impression effectivement que Vladimir Poutine paye assez cher cette impasse. Même les sondages d'État montrent que le taux d'approbation de Vladimir Poutine chute. Il est à 65% alors qu'il dépassait les 80% avant la guerre. Il faut rappeler que ce sont des sondages d'État. Et puis surtout, Poutine aurait abandonné son grand rêve, le rêve de victoire totale. C'est ce que raconte Kaupo Porosin, c'est le chef du service de renseignement extérieur estonien cité par CNN. Il dit qu'il n'entend plus parler de victoire totale, qu'au Kremlin, même au Kremlin, on reconnaît que la situation sur le terrain ukrainien n'est pas favorable. Donc tout ça pour les questions militaires. Et puis, il y a la question économique aussi. Et là aussi, le Kremlin commence à reconnaître quelques faiblesses sur le front économique. Vladimir Poutine l'a admis, l'économie russe ralentit. Et il y a quelques jours, Moscou a revu à la baisse les prévisions de croissance pour cette année, en passant de 1,3% à 0,4%. Et puis certes, il y a la crise au Moyen-Orient qui est une opportunité pour la Russie et pour son pétrole, qu'elle peut donc vendre plus facilement et plus cher. Mais ce n'est pas suffisant. Les services de renseignement suédois ont fait les calculs. Pour avoir un vrai impact sur les finances publiques, il faudrait que le prix moyen du pétrole Oural reste supérieur à 100 dollars le baril jusqu'à la fin de l'année. Or, la semaine dernière, le pétrole a frôlé le 95 dollars. Le pétrole Oural a frôlé les 95. Donc, on y est presque. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Et puis, il y a un autre facteur qui pèse sur les calculs du Kremlin, c'est le dossier iranien. Le dossier iranien qui avance, qui se rapproche, si ce n'est pas de la paix, du moins d'un apaisement. Et donc, à chaque pas en avant entre l'Iran et les États-Unis, représente pour Moscou une menace directe sur le principal levier économique.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini.